Vous êtes à l'écoute de Radio France Internationale RFI, 4h30 à Paris, une heure de plus à Goma et Bukavu.
Vincent Dublange.
Et c'est Afrique Matin qui débute avec le journal. Ne rien faire, c'est déjà choisir. La nouvelle alerte de Félix Tshisekedi face à la communauté internationale hier à la conférence sur la sécurité de Munich en Allemagne. Et ce alors que le M23 soutenu par le Rwanda avance vers Bukavu. Paul Kagame de son côté dit qu'il comprend les revendications du groupe armé. C'est à la une de Jeune Afrique dans 10 petites minutes. La RDC qui sera abordée au sommet de l'UA aujourd'hui et demain, les dirigeants continentaux à Addis Abeba qui évoqueront aussi le Soudan. L'afflux d'armes doit cesser, prévient le secrétaire général de l'ONU qui participe au sommet. Et ce alors que la situation se dégrade encore autour d'El Fasher au Darfour Nord. On va l'entendre. On fera le bilan des derniers jours et la perspective sur les deux prochains jours au sommet de l'UA. Et puis notre invité, Liesel Low de l'International Crisis Group dans une petite dizaine de minutes. La situation sécuritaire d'abord dans le sud Kivu, qui a évolué en quelques heures hier dans la journée, alors que mercredi et jeudi des combats étaient rapportés autour de Calais et Centre, à une soixantaine de kilomètres de la capitale provinciale Bukavu. Ce vendredi, le M23 et les troupes rwandaises ont brusquement avancé, prenant l'aéroport international de Bukavu. Il est situé à Kavumu, c'est encore à une trentaine de kilomètres de la grande ville. Mais dans la soirée, on a appris que des éléments du M23 étaient dans les faubourgs nord de Bukavu. Une source gouvernementale congolaise le confirme. Face à cette situation, Bukavu a ressemblé à une ville morte hier, commerce fermé. Et le président congolais qui rentre à Kinshasa, Félix Tshisekedi, qui était attendu à Addis Abeba, pourtant pour le sommet de l'Union africaine aujourd'hui et demain. Ce vendredi, le chef de l'État congolais était en Allemagne à la conférence sur la sécurité de Munich, où il a une nouvelle fois appelé la communauté internationale à agir.
Aujourd'hui, nous n'attendons plus de simples mots. Nous exigeons des actions décisives. Le statu quo est une illusion. Ne rien faire, c'est déjà choisir. Et ce choix, s'il perdure, aura des répercussions bien au-delà des frontières de la République démocratique du Congo. Car si nous laissons aujourd'hui un pays redessiner les frontières de l'Afrique par la force, qui sera le prochain? Quel sera le prochain territoire contesté? Quelle nation subira à son tour les conséquences de ce dangereux précédent? Il est temps d'agir. La République démocratique du Congo est un État souverain et comme tout État souverain, elle a le droit et le devoir de défendre son intégrité territoriale et de protéger son peuple. Face à l'agression qui nous est imposée, nous userons de tous les moyens à notre disposition pour restaurer la paix et garantir la sécurité de notre nation. Nous n'accepterons plus que notre pays serve de champ de bataille aux ambitions prédatrices de certains de nos voisins. Nous ne tolérerons plus que nos ressources stratégiques soient pillées au profit d'intérêts étrangers, sous le regard complice de ceux qui se nourrissent du chaos.
Le président Félix Tshisekedi qui redit qu'il ne veut pas négocier avec l'AFC M23. Le président congolais qui accuse directement son prédécesseur Joseph Kabila d'être impliqué dans l'opposition armée, alors que l'alliance fleuve Congo qui chapeaute politiquement le M23 est menée par Corneille Nangaa, ancien président de la commission électorale nationale sous Joseph Kabila. La situation humanitaire, elle, s'aggrave de jour en jour, que ce soit dans le sud ou le nord Kivu. 350 000 personnes ont dû fuir les combats et n'ont aucun abri, dit l'ONU. L'organisation non gouvernementale Oxfam alerte également. Du côté de Goma, le M23 a démantelé de nombreux sites d'accueil de déplacés, sachant que l'eau, l'électricité manquent toujours dans la capitale du nord Kivu et que des habitants du sud Kivu viennent tenter de s'y réfugier. Samuel Ngaruko gère les programmes humanitaires d'Oxfam sur place.
Par exemple, ceux qui se trouvent autour de Sake et de Minova n'ont pas des infrastructures d'eau. Oxfam est préoccupé par la probable flambée de choléra, soulignant aussi que ces déplacés, ils ont perdu leur patrimoine, ils ont perdu tout ce qui peut leur servir de commencer la vie. En plus de cela, on assiste encore à de nouveaux déplacements des gens de Kabare, de Karehe, de Katana, vers les différents coins de Bukavu et des îles du lac Kivu. Tous ces événements se sont passés avec une coïncidence de la suspension de l'aide des États-Unis. Et avec tout ça, les acteurs humanitaires se retrouvent dans les capacités et l'impossibilité d'assister à temps ces familles. On appelle à tous les donateurs de tourner les yeux pour ces populations qui sont souffrantes. Beaucoup de gens, il y a des millions de gens qui ont besoin de l'assistance. Il y a des millions de gens qui peuvent même arriver à une situation très catastrophique si rien n'est fait.
Samuel Ngaruko d'Oxfam, interrogé par Amélie Tullet. La suspension de l'aide américaine à l'étranger pour 3 mois, le démantèlement en cours de l'agence chargée de l'aide d'urgence et au développement USAID, Tout cela, malgré le fait que certaines aides d'urgence sont maintenues, plonge les humanitaires dans le flou et les bénéficiaires surtout dans l'extrême précarité. L'agence France-Presse rapporte qu'au Soudan, pour la première fois depuis 2 ans de guerre à Khartoum, les soupes populaires ne peuvent plus nourrir les démunis. On le rappelle, 8 millions de Soudanaises et de Soudanais sont au bord de la famine. La faim extrême qui frappe déjà d'ailleurs dans les régions du Darfour, notamment autour de la grande ville d'El Fasher, tenue par l'armée et ses soutiens, mais où les combats avec les paramilitaires des FSR s'intensifient ces derniers jours. Combats qui ont lieu y compris à l'intérieur même du grand camp de déplacés de Zamzam. C'est intenable, témoigne et dénonce Michel La Charité de Médecins Sans Frontières.
Le camp est complètement encerclé par les forces de soutien rapide et les civils n'ont nulle part où aller. Certains ont décidé de fuir par les moyens qu'ils pouvaient, certains ont rejoint quelques villages, mais c'est vraiment une infime minorité de personnes qui arrivent à bouger. Les combats ont détruit une partie des systèmes d'eau qui permettaient que les populations puissent boire, donc tout le système d'eau qui était au nord a été détruit. Et il faut savoir que les combats se sont concentrés sur Zamzam, mais il y a aussi d'autres combats dans des villages à proximité qui a provoqué un nouvel afflux aussi de déplacés vers Zamzam. Donc si on combine une partie du camp qui a brûlé, de nouvelles personnes qui arrivent sur le camp, on se retrouve avec une densité de population un peu plus importante, au même moment où il y a une pénurie ou destruction des systèmes d'eau, et on ne parle pas non plus de l'accès à la nourriture, qui depuis des mois est extrêmement précaire, donc la situation ne fait que se dégrader. Donc Médecins Sans Frontières, on demande que les civils puissent se diriger là où elles le souhaitent, sans qu'elles soient attaquées par les forces de soutien rapide, et bien sûr, il faudrait restaurer l'accès humanitaire à la ville de El Fasher et au camp de Zamzam.
Des propos recueillis par Christina Okello. Les Émirats Arabes Unis appellent à une pause humanitaire au Soudan durant le Ramadan. Abu Dhabi s'engage à verser 200 millions de dollars d'aide humanitaire. Les Émirats, accusés par les autorités soudanaises issues de l'armée régulière, de soutenir, notamment en matériel militaire, les paramilitaires FSR du général Hemeti au Soudan. À ce propos, l'afflux d'armes doit cesser dans le pays. C'est ce que dit le secrétaire général de l'ONU depuis Addis Abeba. Les civils doivent être protégés, l'accès humanitaire sécurisé doit être facilité, ajoute Antonio Guterres, en marge du sommet de l'Union africaine. La capitale éthiopienne Addis Abeba, siège de l'organisation panafricaine où se déroule effectivement aujourd'hui et demain le sommet des chefs d'État et de gouvernement. Au menu pour les 55 membres de l'UA, désigné le futur président de la commission en remplacement du Tchadien Moussa Faki. Les deux immenses crises humanitaires et sécuritaires de la RDC et du Soudan sont bien évidemment sur la table, Clotilde Hazard.
L'Union africaine a l'opportunité de montrer qu'elle peut parler d'une voix forte et surmonter ses faiblesses, comme les financements insuffisants ou la concurrence entre les blocs régionaux qui entravent son action. Sur les conflits en RDC et au Soudan, les représentants des États membres se sont réunis jusque tard hier pour un conseil de paix et sécurité. La situation qui s'aggrave sera au cœur des discussions entre les États ce week-end. Aujourd'hui, l'UA renouvelle son leadership, le numéro 1 de l'organisation. Le président de la commission sera élu pour un mandat de 4 ans et succédera à Moussa Faki. Le vice-président de la commission sera lui aussi élu. Et à la présidence de l'organisation, l'Angola prendra la suite de la Mauritanie selon la rotation régionale tous les ans. Sur le plan mondial, les États membres devront aussi faire le bilan de la première année au G20 en tant que membre. Cette année, l'Afrique du Sud en a pris la présidence, une occasion pour l'UA de faire valoir ses intérêts. La guerre à Gaza sera aussi abordé. Le chef palestinien est attendu pour faire une déclaration en début de session. En revanche, Volodymyr Zelensky ne fera finalement aucune allocution vidéo en ouverture du sommet. L'invitation du président ukrainien par l'organisation avait provoqué l'ire de plusieurs États membres qui s'étaient opposés à sa venue. Clotilde Hazard, Addis Abeba, RFI.
Et qu'attendre de ce sommet? Quelle critique contre l'Union africaine? Notre invité de l'International Crisis Group, Lisa Lowe, dans 5 petites minutes sur Radio France Internationale. Comment faire sans l'aide américaine. On en parlait il y a quelques instants, la suspension par l'administration Trump pour 90 jours de cette aide entraîne d'énormes soucis pour de nombreux programmes d'aide dans le monde. C'est le cas notamment de ceux qui luttent contre la propagation du VIH-Sida qui tentent aussi d'améliorer la vie des malades. En Ouganda, les autorités proposent aux professionnels du domaine de travailler bénévolement en attendant de négocier avec les États-Unis sur un éventuel retour de l'aide. Flavia Kyomukama est inquiète. Elle dirige le groupe d'action pour la santé, les droits humains et le VIH-Sida en Ouganda.
On est dans l'incertitude. C'est d'autant plus compliqué d'envisager comment assurer la continuité du traitement quand nous savons tous que nos centres de santé sont déjà pleins. On m'a déjà rapporté que des cas de suivi de traitement de tuberculose ou de VIH où les malades ne viennent même plus. Ce sera d'autant plus difficile pour les jeunes avec la stigmatisation associée à certains groupes de venir au centre officiel pour se soigner. Le gouvernement doit donc se réveiller et faire ce qu'on attend de lui. Il y a un engagement à assurer afin que la distribution des médicaments essentiels ne s'arrête pas et que le gouvernement de l'Ouganda investisse l'équivalent de ce qui a été donné dans des produits qui sauvent des vies. Le gouvernement a dit qu'il s'engage à trouver ces fonds utilisés pour les produits de base. Nous espérons alors qu'il trouve des solutions. C'est un appel à agir. Ils devraient être capables de se réveiller et de prendre le contrôle de la santé de leurs citoyens.
Propos recueillis par Wally Diallo. On va terminer à Madagascar. On va dresser le bilan d'un autre programme d'aide. 5 ans de travail de l'Union européenne et des acteurs malgaches soutenu à hauteur de 16 millions d'euros. L'un des objectifs, c'était de relancer la capacité à produire des semences de maïs, de pommes de terre, d'haricots secs et de manioc. Sarah Tetou.
À l'origine du projet Food Sec Semence, un constat, Maurice, les Seychelles, les Comores et Madagascar, malgré leurs différences de niveau de développement, ont au moins un point commun. Aucun n'a la capacité de produire localement des semences saines et de qualité, et ce pour diverses raisons, explique Jérémy Saligné, chercheur au CIRAD Réunion et coordinateur du projet.
Soit parce qu'il n'y a pas de filière semencière développée dans les pays les plus riches qui reposent sur l'importation de semences de qualité, souvent de l'autre bout du monde, comme Maurice, les Seychelles, soit à Madagascar et aux Comores, où on repose sur des systèmes d'autoproduction par les agriculteurs qui ont l'avantage de produire des semences facilement accessibles, mais souvent avec des problèmes germinatifs, avec des problèmes de qualité sanitaire ou de qualité génétique où les agriculteurs ne retrouvent pas la variété qu'ils ont voulu conserver d'une année sur l'autre. Donc dans ce contexte-là, on s'est dit qu'il fallait vraiment construire ensemble des protocoles de production nationaux de semences.
À Madagascar, le programme a donc servi à relancer un système existant quasi à l'abandon, faute de moyens, explique Santach Raveloumanonsoa, directrice du département de recherche agronomique du FOFIFA, le Centre National de Recherche Appliquée au Développement Rural.
Le projet nous a permis de remettre en état tous nos équipements, également augmenter notre capacité en ressources humaines et on a pu produire des semences de qualité en quantité aussi. On est arrivé pour le maïs par exemple à 20 tonnes de semences de pré-base.
Des résultats jugés satisfaisants dans les 4 pays bénéficiaires. À Maurice et Madagascar, la production de semences des 4 variétés est désormais opérationnelle. Mais pour assurer la pérennité du projet, reste désormais à créer les conditions pour que ces semences soient accessibles à la vente pour tous les agriculteurs. Sarah Teto, Antananarivo, RFI.
Afrique Matin sur RFI.
Merci de nous être fidèles. Rapidement, un mot de la suite sur RFI. On revient largement ce matin, bien sûr, sur le sommet de l'Union africaine. La grande rencontre aujourd'hui et demain des chefs d'État et de gouvernement. Analyse de cette UA, toujours en crise, et qui gère difficilement ces crises comme la RDC et le Soudan. Nos invités, la chercheuse Liesel Lowe, et François Soudan de Jeune Afrique qui, lui, s'est entretenu avec les présidents angolais et rwandais. Mais d'abord, direction Djouba. RFI reportage de retour au Soudan du Sud, en banlieue de la capitale, pour évoquer la riposte à l'épidémie de choléra qui sévit depuis quelques mois. Notre correspondante est allée dans le quartier de Jebel Timan à la rencontre d'une famille endeuillée par la mort de l'un des siens. Il y a bien eu une campagne de vaccination anti-choléra, de la prévention aussi, notamment par l'organisation non gouvernementale Médecins Sans Frontières, mais le manque de toilettes, d'égouts dignes de ce nom et la présence d'une déchetterie à ciel ouvert permettent à la bactérie responsable du choléra de proliférer. Florence Mieto.
Accroché à une colline rocailleuse, le quartier de Jebel Timan est peuplé de maisons en bambou et en torchis. Des habitations à étages se dressent aussi ça et là, inachevées, dans ce quartier qui reste l'un des plus sous-développés de la capitale sud-soudanaise. Un quartier toujours en proie à l'épidémie de choléra. En janvier, Albino Diari Warnyang, le pasteur de la communauté, a brutalement perdu son frère de 75 ans à cause de la maladie.
C'est arrivé le 13 janvier. Il a commencé à être malade à 4h du matin et il est mort le même jour à 15h. Nous l'avons emmené dans une clinique à 6h du matin et lui ont donné 7 perfusions d'affilée. Puis le docteur nous a dit de le ramener à la maison pour qu'il se repose. Mais une fois qu'on est arrivé chez nous, il est mort.
Une campagne de vaccination s'est déroulée fin janvier dans la communauté et la famille proche d'Albino Diari Warnyang a été vaccinée. Mais le pasteur reste inquiet.
Nous restons vigilants car le choléra est toujours parmi nous. Et il y a encore des gens qui n'ont pas été vaccinés.
Si personne ne sait exactement comment le choléra est arrivé jusqu'ici, les premières victimes ont été rapportées parmi les nombreux récupérateurs de déchets qui survivent en fouillant dans l'immense décharge située en plein cœur de Jebel Timan. 3 d'entre eux sont morts au mois de décembre. Mathieu Boya, le chef traditionnel du quartier, souhaite la fermeture de ce site.
Les quartiers de Djouba qui n'ont pas de déchetterie n'ont pas eu autant de cas de choléra. Mais nous, ici, nous avons eu beaucoup de cas et des gens sont morts. Hier encore, un homme a dû être emmené au centre de traitement du choléra de Gouréi.
Il est d'autant plus difficile de contenir l'épidémie qu'il n'y a aucun système d'assainissement à Djebel Timan et un seul puits d'eau potable payant pour plus de 6000 personnes. L'immense majorité des habitants boit l'eau de puits creusée dans la terre, comme celui que nous montre Justin Passy Major, un voisin. Une sorte de flaque d'eau profonde entourée de pierres et d'herbes au bord de laquelle traînent des bouteilles en plastique.
L'eau elle-même est propre, mais si par exemple des chèvres viennent boire ici, elles peuvent contaminer l'eau avec des bactéries. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de barrière autour du puits. Mais si on pouvait en construire une, creuser plus profond et utiliser du chlore, alors on serait protégé.
Les appels de la communauté pour la construction de nouveaux puits, de latrines ainsi que pour la fermeture de la déchetterie sont pour l'instant restés sans réponse. Florence Mietto, Djouba, RFI.
Et suite de cette série de reportages demain, les ramasseurs de déchets particulièrement exposés au choléra.
RFI, toute l'actualité.
Vincent Dublange.
À la une, la situation dans l'est de la République démocratique du Congo. Hier, la journée a été marquée par une nouvelle avancée du M23 soutenu par le Rwanda. Le groupe armé a pris le contrôle de Kavumu, la ville où est situé l'aéroport de Bukavu, la capitale du Sud Kivu. Puis, des hommes du M23 ont été aperçus en début de soirée dans certains quartiers de Bukavu. On y revient largement, bien sûr, sur RFI ce matin. Félix Tshisekedi, le président congolais, lui, est rentré en urgence à Kinshasa. Il participait à Munich à la grande conférence internationale sur la sécurité qui s'achève aujourd'hui. Il ne sera donc pas physiquement à Addis Abeba aujourd'hui et demain au sommet de l'Union africaine. La conférence sur la sécurité de Munich, où hier les débats ont été dominés par la situation en Ukraine, alors que les États-Unis poussent toujours pour des négociations de paix entre Kiev et Moscou. C'est ce qu'a répété le vice-président américain à Volodymyr Zelensky, le chef de l'État ukrainien qui lui a affirmé que son pays avait peu de chances de survivre sans le soutien des États-Unis. J.D. Vance, le vice-président américain qui s'est aussi entretenu avec la chef du parti d'extrême droite allemande AfD, il a fustigé le recul, selon lui, de la liberté d'expression sur le continent européen, qui l'inquiète, dit-il, plus que la menace de la Russie, de la Chine ou d'un autre acteur externe. Allez, on revient maintenant sur l'actualité de ce samedi en Afrique avec le sommet annuel de l'Union africaine au siège de l'organisation panafricaine à Addis Abeba en Éthiopie. Les ambassadeurs ont préparé le terrain, puis les ministres des Affaires étrangères se sont retrouvés sur place mercredi et jeudi, et depuis hier, les chefs d'État ou de gouvernement ont commencé à arriver en Éthiopie. Certains étaient hier au Conseil de paix et de sécurité, qui compte 15 membres. La première ministre congolaise y était, les présidents angolais et rwandais également. Et puis ce samedi, c'est le grand sommet avec les dirigeants des 55 membres de l'Union africaine, l'organisation très critiquée, que ce soit dans sa gestion des conflits en RDC ou au Soudan. On en parle avec l'une des meilleures spécialistes de la question, la sud-africaine Liesel Lowe de l'International Crisis Group. Elle est au micro RFI de l'une de nos envoyées spéciales à Addis Abeba, Florence Morrison.
Bonjour Liesel Lowe.
Bonjour.
Lors de son premier discours d'adieu mercredi, Moussa Faki Mahamat a invité les chefs d'État de l'Union africaine à se ressaisir. Il s'est montré inquiet pour la survie de l'organisation. Est-ce que le rêve d'une institution panafricaine forte est menacé aujourd'hui?
C'est vrai que nous voyons ces dernières années des États qui ne voient franchement pas l'intérêt de l'Union africaine pour eux, pour les processus de paix. Donc ce sont des organisations régionales qui pour la plupart gèrent les conflits dans leur région. Nous avons 6 États suspendus de l'Union africaine à cause des coups d'État. Il y en a peut-être un ou deux qui éventuellement vont revenir, mais surtout les États de l'AES maintenant sont isolés et nous voyons le dialogue entre l'Union africaine et ces États ne sont pas vraiment entamés. Donc je pense que l'Union africaine de son côté n'a pas montré vraiment son efficacité.
Comment expliquer cet affaissement?
On peut critiquer Moussa Faki Mahamat et son staff de ne pas avoir été vraiment en avance, par exemple sur le conflit du Soudan. C'est le conflit avec l'impact humanitaire le plus grave au monde, mais on n'en parle pas. Au minimum, on aurait voulu voir l'Union africaine mettre l'accent sur ces graves conflits dans toutes les réunions à l'ONU, dans les réunions internationales. Mais aussi, bien sûr, nous sommes dans un contexte international où le multilatéralisme vraiment est en crise. Donc, c'est pas totalement aussi la faute de l'Union africaine, mais d'autres facteurs internationaux.
Est-ce que l'élection de Donald Trump aux États-Unis rend l'Union africaine encore plus seule face à tous ces défis?
C'est vrai que c'est très inquiétant parce que c'est un peu imprévisible. On ne sait pas quel va être l'impact, par exemple, sur la force de l'Union africaine en Somalie, qui dépend beaucoup de financement de l'ONU. Et les États-Unis sont un grand financement du budget des opérations de paix de l'ONU. Ça peut avoir un impact, mais ça ne va pas vraiment avoir un impact direct sur l'Union africaine en tant qu'organisation.
Au cœur de ce sommet, il y a bien sûr le conflit dans l'est de la RDC, avec un risque de déflagration régionale. Le Conseil paix et sécurité a entériné hier la fusion des processus de Luanda et Nairobi. Est-ce que c'est une bonne idée?
C'est une bonne idée s'il n'y a pas trop d'initiatives parallèles, trop de médiateurs. Et l'inquiétude, c'était un peu que le processus de Luanda ne disparaisse, parce que l'EAC, à un moment donné, voulait un peu que le processus de Nairobi soit le seul processus. Donc, convaincre la RDC de dialoguer avec le M23. Mais nous pensons aussi que c'est aussi important. C'est le processus de Luanda, parce que c'est le dialogue entre la RDC et le Rwanda qui, aujourd'hui, le Rwanda soutient le M23.
Mercredi, le Rwanda a échoué à obtenir le poste au sein du Conseil paix et sécurité que le pays briguait. Le Rwanda est arrivé troisième derrière l'Éthiopie et la Somalie. Est-ce qu'il faut y voir une forme de sanction de la part des États membres?
C'est possible. C'est vrai que le Congo, RDC, est toujours un membre pour 2 ans. Donc, si le Rwanda s'est joint au Conseil de paix et de sécurité, ça aurait été une opportunité pour le Rwanda d'éventuellement bloquer d'autres initiatives du Conseil de paix et de sécurité. Le Rwanda, depuis beaucoup d'années, très influent ici à l'Union africaine, surtout le président Paul Kagame qui gérait les réformes de l'Union africaine. Et donc, on peut voir ça éventuellement comme un manque de poids et de l'influence, mais il faut aussi se rendre compte que c'est un jeu parfois des États. Donc, les autres membres peuvent... par exemple, soutenir un candidat pour un commissaire en échange d'un vote au CPS. Donc, on peut pas déduire toujours que par exemple, un pays a perdu de l'influence parce qu'il a pu gagner ailleurs. Mais quand même, je pense que le Rwanda devrait pas être content de ne pas avoir été élu.
Merci. Florence Maurice qui interrogeait Lisa Lowe de l'International Crisis Group. Et à la une de Jeune Afrique cette semaine, forcément, le sommet de l'UA dont on vient de parler et le conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo. Notamment, le journal a obtenu 2 entretiens importants avec 2 chefs d'État impliqués au premier chef, Paul Kagame, le président du Rwanda, et João Lourenço, celui de l'Angola. Que disent-ils? Le directeur de la rédaction de Jeune Afrique répond à Catherine Potet.
Bonjour François Soudan.
Bonjour Catherine.
C'est vous qui avez interviewé ces 2 chefs d'État, l'Angolais João Lourenço et le Rwandais Paul Kagame. Commençons par le président angolais, le président en exercice de l'Union africaine. Quelle est sa position? Que vous a-t-il dit?
Alors, il nous dit 2 choses à ce propos, le président angolais, dans cet entretien qui, par ailleurs, porte sur beaucoup d'autres sujets, hein, Catherine, notamment sur le fait qu'il ne briguera pas un 3e mandat en 2027. C'est important. Alors, il nous dit d'abord qu'après pratiquement 2 années difficiles, passablement frustrantes, en tant que médiateur désigné de l'Union africaine dans le conflit, il va maintenant qu'il s'apprête à prendre la tête de l'UA, passer la main sur ce dossier à un ou d'autres chefs d'État. Et le second point concerne la solution au conflit. João Lourenço n'en voit pas d'autre que le triptyque retrait des troupes rwandaises, neutralisation des ministres FDLR, négociation directe entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23. Mais sur ce dernier aspect qui est particulièrement sensible, comme on le sait, le président Lourenço demande à Félix Tshisekedi de s'inspirer de l'exemple de l'Angola. Nous avons, dit-il, connu une longue guerre civile et pour y mettre fin, nous avons parlé, nous avons négocié avec toutes les parties prenantes. On a négocié avec les forces sud-africaines du régime de l'apartheid qui étaient présentes sur notre territoire et on a parlé, on a négocié avec ce qui était un petit peu l'équivalent du M23, ce qui était un peu, c'est-à-dire l'UNITA de Jonas Savimbi, soutenu par l'Afrique du Sud. Pour résoudre un conflit opposant les fils d'un même pays, dit-il, il n'y a pas d'autre solution que de se parler.
Voilà donc pour le président en exercice de l'Union africaine. Autre acteur, cette fois-ci directement par parties prenantes au conflit, le président rwandais Paul Kagame, que vous avez également interviewé. Première question, toute simple, reconnaît-il la présence de ses troupes sur le terrain?
La reconnaissance, elle est implicite, hein, mais elle est claire. Nous sommes impliqués, bien entendu, dit Kagame. Nous le sommes en réalité depuis 30 ans, depuis que ce problème existe. Nous avons conclu au moins 5 accords avec le gouvernement congolais depuis 2007 et aucun n'a été respecté. Les milices génocidaires sont toujours présentes. Dès lors, devrions-nous simplement nous taire et ne pas agir? Reconnaissance aussi, Catherine, cette fois-ci explicite, du soutien au M23. Un groupe qui, dit-il, ne fait que réclamer le droit à l'existence d'une population à qui l'on reproche d'être composée de Tutsis et que l'on veut expulser au Rwanda, alors que ça n'est pas le Rwanda qui les a amenés au Congo, c'est l'histoire de la colonisation indienne tracée des frontières. Et interrogé sur le point de savoir s'il partage les objectifs politiques de l'Alliance First Congo et du M23 qui réclame, comme on le sait, le départ de Félix Tshisekedi du pouvoir, la réponse de Kagame est la suivante: je peux comprendre ce qu'ils expriment.
Paul Kagame qui s'exprime également sur l'éventualité de sanctions internationales contre le Rwanda. Et il n'y va pas par quatre chemins.
Ah non, on est là dans du Kagame pur jus, hein, tranchant, intransigeant, d'autant plus offensif qu'on cherche à l'isoler. Des pays, dit-il, dont certains font partie du problème, et il en cite deux, ex-colonisateurs, Belgique, Allemagne, me menace de sanctions alors que je me défends et ils pensent pouvoir m'intimider avec ça. Soyons clairs, si je dois choisir entre faire face à une menace existentielle et être confronté à des sanctions, je prendrai les armes pour affronter la menace sans tenir compte des sanctions. Et Kagame prend en exemple l'histoire d'une femme pendant le génocide de 1994. Avant qu'il ne la tue, raconte-t-il, ses bourreaux l'ont sommé de choisir la façon dont elle allait mourir. Sa réponse a été de leur cracher au visage. Alors, on le voit, Catherine, leur n'est pas encore, et c'est un euphémisme au dialogue. Encore moins une rencontre Kagame Tshisekedi, une rencontre dont le président rwandais dit d'ailleurs ne pas percevoir l'intérêt, si elle se résume, dit-il, à serrer des mains et à faire le spectacle devant les caméras.
Merci François Soudan. Ces interviews de Paul Kagame et João Lourenço sont à retrouver sur jeuneafrique.com.
Et merci à vous, Catherine Potèche. Radio France Internationale à 5 minutes du nouveau journal. On termine avec votre rendez-vous RFI Culture. On est à Paris à la Fondation Cartier qui présente la première rétrospective en Europe de la grande artiste colombienne Olga de Amaral. Elle qui toute sa vie depuis 6 décennies a travaillé le textile. Muriel Mahalouf détisse sa toile.
Olga de Amaral, avec notamment l'américaine Sheila Hicks ou la polonaise Magdalena Abakanowicz, a contribué dans les années 60 à élever l'art du textile considéré comme mineur jusque-là, car dévolu aux femmes, au rang d'art noble. En fil de lin, coton, crin, métal ou or, les tissages d'Olga de Amaral sont des sculptures de couleurs, parfois monumentales, et où domine la géométrie. Marie Pérennes, commissaire.
Olga est colombienne, elle vient des Andes, là où il y a une tradition textile ancestrale très forte. Et évidemment, elle a vu les sites archéologiques importants. Il y a un musée de l'or à Bogota dans lequel il y a des vestiges, notamment de bijoux, tous très géométriques, des triangles, des carrés, des spirales, des formes qu'on retrouve beaucoup dans l'œuvre d'Olga. Et puis, la deuxième grande influence, je dirais que c'est sans aucun doute le modernisme et l'héritage du Bauhaus. Donc elle étudie selon cette philosophie-là, hein, dans une esthétique qui se veut très formellement construite selon une grille et des motifs géométriques extrêmement prégnants. Et ça, on le retrouve beaucoup aussi dans son travail.
La spirale est aussi un motif récurrent chez l'artiste.
La spirale, elle parle aussi de l'infini cycle de la vie qui recommence éternellement, des perspectives temporelles qui sont très chères à Olga. Hein. Et c'est vrai que le temps est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans son travail, hein. Le temps long, celui du tissage, bien entendu, sur le métier à tisser, qui est un temps infini, propice à la méditation. Donc on a pensé le sous-sol selon ce cycle, en suivant cette spirale.
Un sous-sol à la Fondation Cartier où s'offre toute la richesse du travail d'Olga de Amaral. À ses trames tissées viennent se superposer le papier de riz et plus tard la feuille d'or, comme dans cette œuvre qui fait partie de la série Alchimias ou Alchimie.
C'est effectivement une œuvre pour laquelle Olga utilise de la feuille d'or. C'est l'or de l'art précolombien, très riche, mais c'est aussi l'or pillé par les colons espagnols lorsqu'ils arrivent en Colombie. Puis plus tard, c'est l'or des hôtels des églises catholiques qu'elle visite lorsqu'elle est enfant avec sa mère. Donc au début, elle utilise la feuille d'or pour souligner les coutures dans ses œuvres. Et puis très vite, l'or va essaimer, va prendre toute la surface de l'œuvre. Et c'est vraiment chez Olga cette recherche de la lumière.
La Fondation Cartier déploie ainsi l'univers textile aérien et puissant d'Olga de Amaral dans une scénographie subtile de l'architecte Lina Rotmé. Une exposition qui invite à la méditation entre couleurs et matières.
Ça donne envie. Merci Muriel Malouf du service culture de Radio France Internationale. RFI, c'est la fin de cette première demi-heure d'infos africaines. Dans une demi-heure, Pierre Boudias pour le prochain rendez-vous consacré à l'actualité africaine. On fait le point, bien sûr, sur la situation à Bukavu et dans le sud Kivu avec cette progression du M23. Je vous conseille aussi d'aller sur notre appli RFI. Dans une minute, l'info.